allez voir tout tracé, si vous voulez. Je faisais de la pisciculture, on jouait avec Portepoche. Tous les copains qui étaient dans la pisciculture, je les connais encore tous, ils ont toutes des positions extrêmement brillantes et élevées dans cette hiérarchie-là. Et puis bon, ils gagnent bien leur vie, ils sont pas antipathiques. Attends, mais il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Donc en fait, c'est effectivement parce que ces liens paraissaient faux. Et puis parce qu'ils étaient encouragés. Malgré tout, bon, si vous vivez en Suisse allemande, c'est des fois un peu plus frappant, parce que les titres et les trucs et les machins sont plus toujours présents, sont toujours plus... on met l'emphase peut-être davantage que chez nous. Et puis, aussi la constatation qu'il y a des gens qui n'ont fait... J'ai vécu dans beaucoup de pays, j'ai fait le tour du monde, j'ai vécu dans des endroits où j'étais probablement le seul Européen, j'ai dû travailler avec des gens qui n'avaient peut-être fait strictement aucune étude, et j'ai tellement rencontré de gens qui avaient des compétences, qui étaient intelligents, dont l'intelligence était très claire et très évidente dans tous ces moments-là, dans beaucoup de ces moments-là, qui étaient des gens sans aucune culture, au sens complet du terme, que j'ai commencé à me poser la question de ces relations de pouvoir. Parce qu'en fait, je me disais, peut-être que moi, je sais quelque chose de bien précis en plus que machin, me donne une position par rapport à lui, j'en avais effectivement une, j'étais, disons, l'ingénieur ou le chef, ce que vous voulez, et puis ça me donnait tout un temps de droit, que lui acceptait d'ailleurs. J'ai jamais été, disons, l'objet de problèmes de ce côté-là. Donc, mais je trouvais pas ça juste. J'ai vécu au Japon où j'étais le représentant d'une société multinationale. Et puis, j'ai créé un bordel épouvantable parce que j'ai commencé à augmenter les ingénieurs japonais qui gagnaient 4 ou 5 fois moins que moi parce que ça me dérangeait. Puis on me disait, mais non, il ne faut surtout pas faire ça parce qu'il faut profiter. Pensez, ouais, ils sont d'accord pour le boulot pour si peu d'argent. Voyez le problème, les structures de pouvoir jusqu'où elles vont. Alors c'est une révolte contre les structures de pouvoir, d'avoir fait ça, aussi. Et disons, c'est la réalité qu'elles sont tellement toutes puissantes et qu'elles dominent tellement toute la vie actuelle dans notre société qui fait que je me révolte, mais peut-être très maladroitement. Alors là,
Moi je voudrais ajouter quelque chose pour... Enfin, un élément à Martine Chapanière. C'est Kuhn qui a bien montré que quand on fait de la science, finalement, il y a deux types de travail scientifique. Il y a le travail normal, ordinaire, qui suppose qu'on élimine cette faculté critique et que si on a un peu plus de bon sens que les autres, on va soulever des questions que justement la communauté scientifique a décidé qu'on n'allait plus discuter. Et c'est très intéressant de voir que les grandes innovations, surtout au XXe siècle, même déjà un peu avant, dans la science, ce qu'on appelle les révolutions scientifiques, ont été faites par des marginaux, des gens qui n'appartenaient pas souvent à la science en question, c'est-à-dire qui appartenaient à une autre discipline, des transfuges. On peut donner plusieurs exemples. La biologie moléculaire n'est pas née des biologistes. La théorie de la dérive des continents, Wegener, n'était pas un géologue, etc. Des choses comme ça. Donc des gens, Piaget n'était pas psychologue, etc. Des gens qui n'appartiennent pas à la discipline, qui ne connaissent pas le code de conduite, donc qui n'ont pas... Comment dire, éliminer cette capacité critique qui est en fait quand même très proche du bon sens. Hein? Je comprends ta critique parce que je l'ai déjà faite à Pierre. Hein? Souvent, je suis un peu gêné, il insiste trop sur ce bon sens. Le bon sens, en réalité, peut être manipulé. Hein? Il est même
il
très
est
souvent manipulé.
Bon sens.
Non, je ne crois pas qu'il est idéologique. Je crois pas qu'il est idéologique. Mais il peut. Je veux dire, l'idéologie dominante, c'est un pléonasme. Hein, l'idéologie, elle est toujours dominante. C'est-à-dire que mais ils ont aussi une idéologie, mais qui n'est que le reflet de l'idéologie dominante. Il y a une interaction très étroite là.
Je crois qu'il faut dire pour rentrer en bulle que vous ne parlez pas de n'importe quelle assemblée.
Oui, c'est
qu'on
le sent bien, oui.
C'est pour ça que j'ai une sensibilité, c'était vrai.
Oui, oui.
Alors, c'est vrai que quand vous dites toujours bon, science, vous associez ça à savoir. Et nous, dans le groupe qu'on est, on dit savoir et on dit savoir-faire. Et on dit savoir-faire de ces décennies et de ces décennies de femmes qui savaient pertinemment, et là il y a un problème historique nouveau, c'est pas un hasard que les mouvements féministes, c'est que c'est des générations et des générations de femmes qui savent très bien que tous ces, toutes ces montagnes de savoir étaient toujours assises sur les savoir-faire féminins qui ont permis justement que ces savoirs se développent. Alors je crois que c'est ça la sensibilité qu'on a là. C'est pour ça que les mots de compétence, les mots d'idéologie, ça nous fait frissonner. Hein, parce que, alors, ce que je veux dire, c'est que il y a une espèce de production historique de cette idéologie de l'État, de cette idéologie de la science, et de cette désappropriation qu'on a fait des femmes. C'est pas un hasard, c'est pour ça que, justement, je pense que l'histoire, moi, c'est toujours important. C'est pas un hasard qu'au même moment où on a commencé l'avènement du salariat, la division du travail, la division sexuelle du travail, où les femmes ont des amis là, les hommes ont des amis pour la production, etc. C'est pas un hasard qu'à ce moment-là soit développée l'idéologie d'État, l'idéologie de la science, et corrélativement la désappropriation des femmes de leurs compétences, de leur savoir-faire traditionnel, qui leur a permis de se détacher. Et tout le mouvement féministe, il est quand même issu de cette contradiction. Hein. C'est pour ça que quand on dit l'idéologie dominante, laquelle de domination, de quel type de société vous parlez, évidemment, de celle dans laquelle on vit, oui, mais dont nous on dit qu'elle est une société patriarcale, qu'elle est fondée sur des valeurs, c'est-à-dire sur des valeurs masculines, sur des valeurs effectivement de pouvoir, d'un certain type de domination, de certains savoirs, éliminant corrélativement tous les autres savoir-faire et toutes les autres compétences, mais inévitablement s'appuyant, parce que tous ces savoirs, toute cette idéologie, toute cette production de la science ne serait absolument pas possible s'il n'y avait pas la participation de toutes ces femmes, hein, qui sont les femmes de tous ces physiciens, parce que tous ces bons hommes-là, sont bien soutenus par les femmes qui avaient la science. L'un dans l'autre, quoi. Hein. Bon. Alors, je veux dire, c'est pour ça que nous, le bon sens, la compétence, le savoir, le pouvoir, on a une sensibilité spécifique, une sensibilité un peu féministe, et c'est pour ça que moi, dans le bon sens, j'ai du mal à adhérer à ce type de choses, et j'aime bien, alors quand on parle d'épistémologie de la connaissance, qu'on nous dise bien, quand on parle de science ou de technique, de savoir ou de savoir-faire, et que le pouvoir, c'est un certain type de pouvoir. L'idéologie, c'est un certain type d'idéologie, c'est celle de la société dans laquelle on est, mais dont on pense qu'elle est de plus en plus traversée par des réseaux de contradictions. Alors bon, le nucléaire, je crois que vous nous dites, l'écologie, c'est évident, les mouvements féministes aussi, bien qu'ils aient, soit dans une période de creux à l'heure actuelle, historiquement. C'est pour ça que je crois, et c'est un petit peu j'ai entendu de la question d'Anne-Marie ou de Corinne, c'est que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit bien que dans une majorité des pratiques scientifiques, si on a des convictions militantes, quelles qu'elles soient, on est obligé de faire une critique assez radicale et donc d'adopter une position assez marginale. Alors, en fait, comme on peut avec les institutions qu'on a, on voit bien qu'au CERN, c'est pas comme tout à fait comme l'UNI, enfin bon, hein, mais on est obligé de travailler dans une position marginale, ça c'est sûr, mais malgré tout en cherchant des solidarités par rapport aux utopies qu'on a. Parce que je sais pas si la société patriarcale c'est mieux qu'une autre, enfin bon. Je veux dire que, alors, il y a les utopies qui traversent quand même nos pratiques militantes. Hein, alors, bon, pour certains, c'est plus dans le nucléaire, plus dans l'écologiste, plus dans tout, c'est plus féministe. Mais c'est ce que j'ai entendu aussi, moi, dans la question de Corinne. C'est pour ça que...
Martine. C'est sa sœur, Corinne. Sa sœur.
C'est la deuxième fois que je fais ça.
Elle est plus célèbre, ta sœur.
Je crois qu'on l'appelle Martine.
Ah bon?
Il y a une justice
immanente.
Alors, c'est vrai qu'on parle peut-être d'un certain point de vue, avec un certain type de sensibilité qui a ses démons qui nous écorchent un peu plus que d'autres.
Mais tu vois, moi j'ai soulevé tout à l'heure la question de l'État et de la guerre. D'ailleurs, de plus en plus, ma réflexion maintenant, c'est science et guerre. Pourquoi ? Parce que s'il y a une institution qui représente typiquement les valeurs masculines, c'est l'armée. Et l'armée est le prolongement de la chasse. Et il y a des liens, je m'en aperçois au niveau des armes à feu. Pendant pratiquement tout le XVIIe siècle, on ne peut pratiquement pas distinguer les armes à feu portatives des soldats, ou des gradés plutôt, de leurs armes de chasse. Donc c'est assez intéressant de voir au moment même où se constituent les armées nationales dans nos différents grands pays européens, comment effectivement les hommes de guerre sont avant tout des chasseurs. Et, et, et la guerre étant liée au viol dans toute l'histoire, il y a des choses à essayer de trouver là, parce que franchement, s'il y a un domaine qui est peu exploré, c'est celui-là. Hein. Nous, une des réponses négatives qu'on a eues du Front National, c'est que la recherche qu'on présentait se trouvait dans toute la littérature mondiale. Alors là, c'était totalement farfelu, notre projet était tout à fait original et il n'y avait rien dans la littérature mondiale sur ces questions précises, cette interrogation précise des rapports entre le fonctionnement de la science, la naissance de l'État-nation et la fonction de la guerre dans nos sociétés modernes.
Et la division sexuelle du travail,
oui, oui.
Le salariat du 19e siècle, avec vraiment toute cette production du 20e siècle, avec l'idéologie scientiste, évidemment, et c'est ça.
Et puis, bon, il y a aussi l'autre fait. La science moderne, disons, à partir du XVIIe siècle, allant de pair avec cette idéologie de la domination de la nature, il y a tout le problème symbolique de la nature qui est lié avec la notion de féminine de la femme. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard si certains écologistes aujourd'hui ont redonné à la nature un nouveau nom, Gaïa, qui est la déesse mère de la terre-mère chez les Grecs. Et c'est une hypothèse scientifique, l'hypothèse Gaïa, qu'on discute beaucoup pour ceux qui travaillent sur la biosphère. Et en plus, Gaïa même, on trouve ça dans toute une littérature qui n'est pas scientifique. Donc, on retrouve ce thème donc, de la nature et de la femme au centre de la réflexion critique sur la science.
Manuel, je crois que
moi, j'avais une question pour revenir un peu à ce qu'avant ce que vous dites dans la critique fondamentale par rapport aux sciences, qui remet en cause le concept de progrès. Et en miroir à votre idée généreuse et critique de bon sens, pour vous, qu'est-ce qui pourrait maintenant être le progrès, quels pourraient être les supports du progrès, et est-ce que, en relation avec ça, vous auriez fait un même bouquin sur un laboratoire de biologie de recherche génétique, sur un laboratoire en recherche en virologie, sur autre chose que le CERN, mais une autre recherche.
On aurait pu le faire sur un biologie moléculaire.
C'est-à-dire que bon, le progrès, disons, je crois que c'est parce qu'on a mis là-dedans, je l'ai caractérisé par ce que j'appelle le retour en âge. C'est-à-dire que on nous dit que si on revient, disons, à certaines valeurs ou façons d'exister qui pouvaient avoir prévalu il y a un certain nombre d'années, et on appelle ça un retour en arrière, et puis on nous représente tout de suite comme étant en train de retourner aux chaînes de Cro-Magnon. Disons, je crois qu'en fait, cette attitude est ridicule, c'est-à-dire qu'il y a dans les attitudes de vie des gens, il y a peut-être 2 siècles, 3 siècles, beaucoup plus longtemps en arrière, on compte un 2000-3000 en arrière, probablement des attitudes et des façons d'exister, je pense par exemple aux Indiens d'Amérique, qui étaient beaucoup plus correctes et beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles, comme interaction et comme façon d'exister, avec, disons, surtout la capacité de vivre en régime stationnaire avec un environnement naturel qui est quand même limité. Et je pense que de revenir vers ça est un retour, non pas en arrière, mais c'est un retour en avant. C'est quelque chose qui consiste en fait à recomprendre et repercevoir des choses qu'on a oubliées. Mais qui étaient des choses d'une extrême valeur. Je ne sais pas vous avez probablement tous lu le texte qui consiste, donc le discours final de Seattle au Congrès américain, dont on a mis ici un extrait, disons, il y a là une expression de certaines perceptions. Alors, je pense que le progrès, comme on le conçoit aujourd'hui, qui est donc cette compétence de plus en plus puissante de l'être humain, de dominer tout ce qu'il y a et puis de le dominer un peu, par des gestes de plus en plus simples, puisqu'il ne s'agit plus que de peser sur des boutons, donc de limiter au strict minimum l'interaction et l'effort fourni pour avoir un maximum d'effet, ce qui est d'ailleurs incidemment le concept de toute hiérarchie, y compris la hiérarchie militaire. Donc c'est le moins d'efforts possible pour tout le monde de gros effets possibles. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on réapprenne, du moins c'est mon impression, à avoir du plaisir à des actions qui sont des actions de symbiose avec cet environnement qui nous fait vivre. Parce qu'il faut quand même bien réaliser une chose, c'est quand on compense l'environnement, avec toute notre science, avec tous les grands titres de docteur que nous avons et tous les super savants qui prennent partout sur cette terre, nous ne savons pas du tout comment fonctionne la nature. Nous n'en avons pas la moindre idée. Nous pouvons dire que une graine que je pose ici, que je la mets dans la terre, qu'elle va donner une plante d'une certaine sorte. Mais vous ne pouvez absolument pas dire ce qui dans, où est le programme, vous ne savez pas pourquoi il le donne.
Pierre, on ne peut pas dire quand même qu'on n'en a pas la moindre idée, parce que en disant ça, tu ne peux pas dire que la biosphère se détruit. Comment peux-tu qualifier la destruction de la biosphère si tu n'as pas la moindre idée de son fonctionnement? Il faut quand même avoir quelques idées.
J'aimerais préciser que là, j'ai entendu, peut-être, j'aurais dû préciser, j'ai entendu par compréhension, disons la compréhension standard, c'est-à-dire la compréhension au sens scientifique.
Parce que compréhension masculine.
La compréhension, disons,
on sait ce que c'est la nature.
Voilà. Mais disons.
On la fournit,
vous
on
savez,
la produit.
Oui, mais je pense que. Alors là, il faut peut-être admettre que c'est possible que tout le monde ait cette perception, ou puisse chercher à l'avoir. Et je pense que cet effort-là est celui que nous devons faire. Je prends un exemple un petit peu au hasard, mais. Comment se fait-il qu'un Indien, il y a 200 ans en arrière, ne ramassait plus du bois mort, il n'était pas le feu, on ne coupait pas du bois, etc. Parce qu'il avait un certain respect, il savait qu'il faisait ça, et qu'il avait une raison très profonde de le faire, qui était juste. C'est le genre de perception que je pense qu'on doit développer, que vous avez peut-être, alors tant mieux, mais disons qu'on doit essayer de remettre à l'honneur. Alors, disons, pour moi, le progrès, ce serait ça, parce que à quoi sert le progrès tel qu'on essaye de poursuivre maintenant toujours plus vite, si ça ne mène que à un écrasement final, disons, si ça n'a aucun potentiel de continuation. Bon, il y en a qui disent, bon, après tout, ça fait rien, parce que, j'entends, c'était peut-être préprogrammé comme ça, puis ma foi, l'humanité pètera, puis hard luck, hein, tant pis, c'est fini, bonne nuit, puis on s'est bien marré, puis ça va bien. Bon, alors, là, on voit bien qu'on est confronté à notre attitude personnelle, qu'on est confronté à des choix que nous devons faire nous-mêmes. Alors moi, je n'ai pas fait ce choix. Donc, en d'autres termes, je trouve que c'est plus intéressant de retrouver cette capacité de perception que de continuer sur ce chemin dont je sais qu'il mène nulle part. Alors, ce progrès-là, donc, pour essayer de répondre, je pense que je réponds très mal, c'est le retour, c'est le retour.
Mais peut-être que ces Indiens dont vous parlez avaient une approche de la nature qui était fondée sur les traditions, mais, et que nous, on a... d'abord commencer par une déviation de notre compréhension, mais que la science la plus belle qu'on puisse imaginer, ce serait une compréhension positive. Donc, j'adhérerais pas à un démolissage net de la science entière.
Non, mais il est bien entendu qu'il ne faut pas le faire. Le problème est en sens de la mettre en perspective. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a mis la priorité sur une manière de comprendre. Et là, je crois que mon discours se rejoint
absolument.
Ouais,
absolument. Martine, je crois, une question.
Oui, ça m'embête un peu de reprendre encore une fois la parole, mais pas mon sujet. Je crois que je voudrais dire que, à propos de cette compréhension de la nature, votre terme d'indisciplinarité me plaît beaucoup, parce que je crois que c'est une des raisons qui fait qu'on n'arrive pas à la comprendre, la nature, c'est qu'on est tellement coincé dans nos disciplines que, bon, soit qu'on n'ait pas de discipline du tout, ce qui est évidemment le cas de la majorité, et pour les privilégiés qui ont une discipline, ils sont tellement coincés dedans qu'on arrive, on ne peut pas comprendre la nature qui, elle, n'appartient évidemment à aucune discipline ou à toutes en même temps. Et je pense à ça parce qu'il y a un cours d'écologie humaine qui est donné cette année à l'université pour la première année. Et les étudiants que je suis, ce cours, et j'entends les étudiants réagir autour, et beaucoup disent « c'est pas de la biologie, c'est pas de la géographie, c'est pas de la physique, c'est quoi ce cours ?» Et vraiment, il y a une réaction très difficile d'appréhension de quelque chose qui est un construit de différentes disciplines. Ça, c'est la première chose. Je crois que vous aidez à déconstruire ces disciplines. L'autre chose, mais ça, c'est un débat de très longue haleine, c'est que c'est Marie-Vonne, je crois que c'est un débat que nous, on doit avoir à l'intérieur de l'association, de savoir si on est plus proche de la nature ou pas, hein, les femmes. Je ne suis pas convaincue, je trouve que de nouveau, c'est un raisonnement dangereux, de dire que les femmes sont plus proches de la nature. À ce moment-là, il faudrait que ce soit immédiatement à sortir ça du fait que tout le monde doit être aussi proche de la nature. Et que voilà, je trouve que c'est très facile de nous reléguer dans un rôle social inférieur dès lors qu'on nous place plus proche de la nature, comme les gens du tiers-monde, etc., qui n'ont pas un médiateur culturel aussi grand. Mais c'est un autre débat, je dirais, qu'il faut quand même fonder.
Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à l'affirmation de Marie-Vonne que les femmes sont
comprennent la nature parce qu'elles le sont. Je crois qu'on voit suffisamment de femmes qui sont complètement déphasées par rapport à leur fonctionnement, par rapport aux qui ne connaissent pas vraiment leur corps. Et je crois que justement, enfin, la notion de Pierre d'appel au bon sens, je crois qu'elle est assez, je dirais, un peu dans l'absolu. Parce que c'est clair que les êtres humains, au départ, devaient avoir une certaine appréhension de leur environnement et une compréhension qui amène certains d'entre eux à avoir, bon, comme les animaux, un certain senti viscéral sur ce qu'ils vivent. Mais ce qui est grave, je dirais, c'est que nous, alors dans le Genève moderne, c'est quelque chose qu'on a horriblement perdu. Et quand tu parles du bon sens qui peut être manipulé, effectivement, quand on vit à Genève, on voit comme le bon sens est manipulé. Moi, le genre de dans le travail que je fais en ce moment, le genre de femmes que je vois arriver à 45 ans complètement épuisées parce qu'elles n'ont jamais eu l'idée qu'elles pourraient s'arrêter de travailler, alors que ça aurait dû être un réflexe naturel de s'arrêter, c'est effrayant. Et effectivement, le bon sens, il faut le replacer. Et ce qui est grave, et je trouve que c'est pour ça que c'est important que Pierre en parle beaucoup, c'est qu'on est en train de le tuer en ce moment dans notre civilisation, complètement. On a effectivement maintenant des gens qui n'ont plus de bon sens. On voit énormément de situations.
J'aime mieux le terme anglais de common sense. Parce que
ce n'est pas la même chose, effectivement.
Ça ne veut pas dire exactement la même chose. Parce que quand je dis bon sens, ça a tout de suite l'application qu'il y en a un qui est bon, puis l'autre qui est mauvais. Je pense que le mot common sense dit mieux, parce que c'est ce que tout le monde peut, à la limite, par ses antennes à lui personnelles, au fond, comprendre, si on veut bien.
Ça. Et le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'antennes personnelles et qui ne vivent qu'avec des machins qu'on leur a rapportés et qui en crèvent en même temps.
Et puis, à propos de cette réflexion sur la division des disciplines, il ne faut pas oublier que non seulement il y a un émiettement du savoir et une multitude de disciplines qui prolifèrent, les disciplines prolifèrent, c'est-à-dire il y a des sous-disciplines pour des raisons de job, de budget, etc., pas souvent pour des raisons purement scientifiques, mais il y a aussi des raisons qui appartiennent à la logique interne de la science, que j'admets, mais il y a aussi une hiérarchie de cette division. Et ça, c'est la hiérarchie qui nous vient du 19e siècle, qui est toujours celle d'Auguste Comte, et qu'entretient le CERN. À savoir que c'est la physique des particules qui est la base de tout. Hein? On commence par les particules, ensuite les atomes, ensuite les molécules, les macromolécules, les cellules, les organismes vivants, les sociétés, etc. Bon, ça, c'est bien connu, et c'est ça que nous devons absolument démolir. Ça ne tient pas debout. C'est ce qu'on peut appeler l'épistémologie de la simplicité. C'est-à-dire de croire que tout est comme un mécano. C'est ça, la révolution scientifique mécaniste et atomiste, de dire on peut démonter, comme un garagiste il peut vous défaire votre moteur, chaque pièce est à sa place, mais on peut aligner sur un établi toutes les pièces du moteur et le recomposer, et ça marche. La vie, c'est pas ça, c'est pas un moteur, c'est pas mécanique. Si on la démonte, on peut pas la remonter, hein. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut faire très attention à la métaphore, par exemple, du vaisseau spatial Terre, qui est répandue chez tous les écologistes. C'est une métaphore totalement stupide. La Terre n'est pas un objet fabriqué par un ingénieur comme un vaisseau spatial, dont on connaît le moindre des paramètres, toutes les pièces, etc. C'est un mécano, un vaisseau spatial. La Terre, et là je suis d'accord avec Pierre, nous ne connaissons pas les mécanismes de fonctionnement de la biosphère. Vous savez qu'il y a un grand programme de l'UNESCO qui s'appelle L'Homme et la Biosphère, depuis 1971, qui est né à la suite d'une conférence en 68. Pourquoi ? Parce que c'est un grave problème. Nous sommes en train de la détruire, cette biosphère. Un certain nombre d'indices nous montrent que ça marche de moins en moins bien, notamment au niveau de l'atmosphère, notamment à cause de la forêt amazonienne qu'on détruit. Or, la forêt amazonienne a une incidence considérable sur les mécanismes climatiques, etc. La déforestation, les déserts qui avancent. Je veux dire, l'interaction entre biosphère et atmosphère est quelque chose qui retient une grande partie des scientifiques aujourd'hui, mais malheureusement, une partie qui est relativement encore marginale par rapport à ceux qui contribuent à la course aux armements. Hein. Des fois, d'ailleurs, c'est les mêmes, hein, parce que la physique de l'atmosphère, on en a aussi besoin pour les armements. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a des idées quand même sur la nature, mais on doit faire très attention à ce concept de nature. Il n'y a rien de plus ambigu que l'idée de nature, hein. Chacun le tire à soi. Les gens du CERN disent on étudie la nature. Or là, il n'y a pas de doute que nous, on était entièrement en désaccord. Ce qu'on voulait détruire, c'est cette idée que les gens du CERN étudient la nature. Parce que là, on revient au sens commun. Pour la plupart des gens, les molécules, les atomes, c'est pas ça la nature. La nature, c'est les organismes vivants. C'est la nature au sens où Goethe ou Humboldt ou Darwin en parlait, c'est-à-dire la nature qu'on observe en grandeur nature. Et là, on aurait donc pu attaquer une autre discipline qui est la biologie moléculaire, qui est une biologie qui imite les méthodes de la physique atomique, c'est-à-dire qui croit que c'est au niveau moléculaire que toute la vie se décide. Bon, faisant totalement abstraction finalement de l'environnement, de l'aspect macroscopique de la vie. Aujourd'hui, il y a un problème épistémologique et socio-épistémologique en biologie très grave, car l'ancienne histoire naturelle n'a pas donné la biologie moléculaire. Elle a donné l'écologie globale. Et la biologie moléculaire, c'est une espèce de déviation sous l'influence de l'épistémologie atomiste et de la physique des particules, de la physique, si vous voulez... la physique chimie telle qu'elle s'est développée au 19e siècle, il y a un grave problème. Or, il n'est soulevé par personne. Je veux dire, on entend parler effectivement des problèmes de biologie, de génie génétique, etc. Mais qui est-ce qui pose ce problème qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est la biologie? On ne sait plus. Parce que la biologie est divisée en une multitude de disciplines et qui ne sont plus cohérentes entre elles. Et donc, il n'y a pas que le problème de la physique des particules. D'ailleurs, on l'a dit dans notre conclusion, pour nous, le problème de la physique des particules est du CERN, parce que la physique des particules ne peut se faire que dans des grands labos type CERN. Ça, c'est aussi un point important, hein. Ça suppose un certain type d'infrastructure. C'est en fait ce type de science, et on le retrouve en biologie moléculaire. La biologie moléculaire, c'est plus du tout du petit bricolage. C'est des très très grosses équipes où il y a des centaines et des centaines de chercheurs sur le même programme, avec beaucoup d'argent, etc. Hein? Le terme américain, c'est Big Science. Et le Big Science a été formé à la suite du mot Big Business, qui était très courant. Malheureusement, en langue française, le seul bouquin sur la Big Science a été traduit par le titre Suprascience. C'est le bouquin de Derek de Sola Price, science et suprascience. C'est pas du tout ça, c'est la mégaloscience, c'est la grosse science, moi je dirais, big science, c'est la grosse science, pas la grande science. Et donc on pourrait très bien généraliser ce type de critique pour l'étendre à d'autres gros laboratoires, pour montrer que ces gros laboratoires déforment l'ensemble de l'activité scientifique, y compris dans le domaine de la biosphère. Aujourd'hui, le domaine de la biosphère, c'est très souvent la télédétection, les satellites artificiels, etc. Ça peut justifier la course à l'espace aussi. Donc, ça peut être récupéré. Il faut être prudent partout.
Juste une remarque pour montrer, parce que je trouve pas plus pour montrer que la science peut en fait conduire à une diminution de la compréhension, au moins à une diminution de la perception. Si vous voulez, le meilleur moyen d'illustrer cette question, c'est de dire la chose suivante. Actuellement, tout le monde sait que les forêts vont pas bien, qu'il y a un problème de dépérissement de la biosphère, en particulier dans des forêts. Et puis alors, qu'est-ce qu'on cherche comme excuse? Alors, il y a des gens qui vont vous dire, ah, mais l'été passé, il a fait très sec. C'était mauvais, on dit dans le froid aussi, il a fait très sec. Et puis personne ne fait le raisonnement complémentaire, consistant à dire, il a fait sec parce que la biosphère va mal. En fait, la liaison inverse bien naturelle et évidente, qui ne peut pas ne pas exister, entre la biosphère et le climat, elle ne se fait jamais, parce qu'on étudie sectoriellement. Parce qu'il y a, le type qui fait de la physique de l'atmosphère, bon, il se trouve que je fais partie de ces gens-là, parce que j'ai la faiblesse de croire que je dois gagner ma vie, bon, alors je fais de la physique de l'atmosphère, mais ces gens-là, c'est un truc quand même assez bien compartimenté. Et puis il y a les gars qui s'occupent de savoir la fertilité du sol, la vie et tout, et puis, hein. Et puis bon, ils se causent bien un petit peu de manière interdisciplinaire, mais c'est chacun ramène son petit bout de science, il n'y a pas de réflexion globale. Alors finalement, on est en train d'échapper, on est en train de nous voir passer sous le nez la compréhension, même pas forcément totalement scientifique, mais en tout, parce qu'on peut aussi l'avoir probablement sans faire beaucoup de science, du fait que, puisque la biosphère s'en va, il en résulte que le climat s'en va aussi. Alors, ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que, bon, je suis ça scientifiquement, parce que ça m'intéresse, pour la raison toute bête, c'est que cette échéance pourrait être horriblement rapide. Ça pourrait être rapide au point que d'ici quelques 5-10 ans, on en soit pratiquement aussi à essayer de trouver notre nourriture, au sens, par exemple, que les gens qui vivent en Éthiopie actuellement, on l'a assez vu à la télé, on vient de la peine à manger, mais ça n'est peut-être qu'un signe avant-coureur de ce qui va nous arriver d'ici peut-être pas plus longtemps. Parce qu'il n'est pas pensable que le climat ne bascule pas si la biosphère bascule. Et en fait, ces phénomènes, on constate par exemple, ça c'est alors parfaitement scientifique, que ces fameuses courbes exponentielles se retrouvent partout. Elles se retrouvent par exemple dans le fait que le CO2 atmosphérique augmente lui aussi de manière exponentielle. C'est pas même linéaire. Donc on voit que on est en train, parce qu'on a serré les choses, parce qu'on a fait des gens extrêmement compétents dans tout un tas de domaines, de louper les interactions qu'il y a. Et à cause de ça, on risque peut-être de trinquer. Puis on va trinquer méchamment. Parce que si ça se passe de cette façon, ça ne veut pas simplement dire que c'est une anecdote passagère, ça peut signifier quelque chose quand même. Ces interactions, ces sensations, ces perceptions, appelons-les féminines si vous voulez, j'entends ça, ça ne me dérange pas, qui peut y avoir, il y a urgence à les rentrer en fait. On n'a pas le temps. Il faut que ça vienne, parce que si cette société de phallocrates reste en place, eh bien c'est terminé. Moi, j'ai vraiment cette impression. Et ça sera terminé bien.
Vous n'avez pas l'air complètement désespéré?
Ben non, parce que de toute façon, vous faites votre compromis tout le temps. Donc, au bout de 10 ans, honnêtement, vous pouvez percevoir quelque chose. Donc, tant que vous l'avez perçu que par votre intellect, ça se passe au fond assez bien, parce que vous pouvez encore développer un raisonnement, à un moment donné, vous le percevez par vos tripes, et à ce moment-là, ça commence à être beaucoup plus dérangeant. Et puis, ça finit par faire ce que vous faites. Attends, c'est quand même pas un hasard si je suis là en train de vous raconter des salades. Hein, c'est plus rigolo d'être à la maison de boire des verres. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais c'est pour dire.
Est-ce qu'il y a des moments où il n'y a pas eu l'effet titanique? Est-ce qu'il y a des... par exemple, est-ce qu'au moment... Je ne sais pas si on peut prévoir des épidémies de peste, par exemple, des choses comme ça. Les gens de... Je crois que tout le monde réagit comme ça. C'est-à-dire qu'on réagit comme ça dans la vie personnelle.
Mais les conséquences, je m'excuse, sont d'un autre ordre.
Oui, alors c'est ça,
oui, c'est ça qui m'embête.
C'est-à-dire que ça se dégrade chaque... Ce serait un phénomène d'entropie, en gros. C'est que ça se dégrade chaque fois.
Non, c'est-à-dire que c'est des phénomènes de bascule. Donc si je reprends ça, vous avez des états qui peuvent être stables. Donc, disons... exprimé de manière non scientifique, l'atmosphère n'est pas un système transitif, c'est-à-dire qu'il peut basculer d'un état dans un autre. Hein? Alors une fois que la bascule est amorcée, vous ne pouvez plus l'arrêter.
Mais un état plus mauvais, si on peut dire,
ben, il semble,
un état différent.
Il semble. Oui. Parce que si vous voulez, l'histoire, la paléoclimatologie, il faut quand même disons, reconnaître que les sciences sont intéressantes, ça permet de, disons, de montrer, enfin en tout cas, et l'évidence paraît assez convaincante, qu'il y a des, donc... Il y a un cycle extrêmement pointu à 100 000 ans, c'est-à-dire que vous avez 90 000 ans de glace et 10 000 ans sans glace. Hein. Et ceci s'est répété un nombre considérable de fois. Alors il se trouve que c'est 100 000 ans, alors disons ce cycle est assez clairement établi, et il se trouve que nous sommes à 10-11 000 ans dans une période interglaciaire et qu'on est d'euphorite. Et puis, bon, on a encore accéléré un peu le mouvement parce qu'on a brûlé du charbon, du pétrole, des trucs et des machins, puis on a augmenté encore l'influence. Donc, en fait... Tous les indices sont là, et puis on les. Et alors là où c'est marrant scientifiquement, c'est que ceux qui disent que ça va se passer comme ça, le Fonds National les finance pas. Ceux qui disent que ça va se réchauffer, puis qu'au fond il fera juste un peu plus chaud, ils vous dessinent des cervins, des lions au pied du cervin, ceux-là ils peuvent aller au Fonds National, on va les financer. J'attends, il faut aussi voir ça. Ça se mord là que par tous les bouts. Et puis c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de raisonnement purement scientifique. Parce que de quel droit est-ce que ces gens-là financent les trucs qui les arrangent? C'est pas un raisonnement très scientifique, ça, théorique.
pas, moi j'ai un train malgré tout.
Ça vous dérange pas trop. Hein. Ça, il est à moins tard.
Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait encore des questions?
Ben, je m'excuse de vous quitter, après, il ne faut pas arrêter à cause de moi. Mais merci beaucoup pour votre hospitalité.
Merci à vous.
C'était sympa. J'ai un
paracoup. On a eu jusqu'à 10 minutes.
J'ai un paracoup.
J'ai
un paracoup. J'ai un paracoup.
Ah ben non, c'était bien. Bon, tu m'annonces quand tu as des nouvelles. Bientôt.
Salut Emmanuel.
Bonjour, encore une question. On a beaucoup insisté sur une critique de la science ce soir. Je crois qu'on est tout à fait d'accord puisqu'il y a aussi une critique féministe. Il y a un danger, je crois, aussi à... Enfin, surtout, peut-être, c'est dommage que M. Lehmann parte, mais lui qui en revenait au bon sens, etc. Il me semble c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il me semble que quand même la science... peut nous apporter un certain nombre de choses positives. Bon, il y a déjà de la lumière ici, on a bu des boissons, etc., qui ont été fabriquées grâce
à l'éthène. Moi, je dirais surtout, c'est Pierre lui-même qui apportait sa propre contradiction, c'est-à-dire en apportant des connaissances scientifiques.
Absolument.
Hein? Quand il parle de l'atmosphère, tout ça, c'est pas du bon sens. Le bon sens ignore ce type de relation entre l'atmosphère et la biosphère. Donc ça, c'est que la connaissance scientifique. Et encore, de pointe, c'est au 19e siècle, on ignorait ce type de relation. Les scientifiques ignoraient ça. C'est des connaissances récentes. Donc, il apporte lui-même la preuve qu'il ne jette pas la connaissance scientifique purement et simplement
le
comme ça.
Le problème, c'est sa limitation. Enfin, c'est le fait qu'un scientifique soit incapable, et je dirais là, c'est peut-être une question de pouvoir regarder autour de lui pour savoir ce qu'il fait. C'est ça, c'est là où est le drame, je dirais. Parce qu'effectivement, si un scientifique avait le temps et qu'on lui laisse le temps et le droit de regarder quelle est l'utilité de sa science, de regarder ce qu'il fait, de réfléchir sur lui-même, bon, il irait peut-être moins vite, il serait moins productif, c'est sûr. Mais il ferait moins de conneries, c'est clair.
Mais je pense que c'est pas seulement au niveau du scientifique, c'est au niveau, disons, de nous tous et de nous toutes.
Absolument.
Parce que, par exemple, maintenant, moi, je trouve que se posent des problèmes extrêmement cruciaux pour nous en tant que citoyens, des questions du style, est-ce que l'informatique, ça va améliorer ou pas notre vie ? Hein, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'expansion maintenant. Et bon, est-ce qu'on va vraiment améliorer nos conditions de vie? Est-ce qu'on va se libérer à travers ça? Ou est-ce qu'on va s'enchaîner encore plus? Et pour des tas de trucs comme ça, bon, il y a des choses assez évidentes, comme la lumière ou certains types de transports, etc., où on peut considérer que la science nous a apporté, dans le domaine de la médecine, par exemple. Et encore, il ne faut pas mythifier la médecine, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses où c'est assez évident que la science nous a apporté quelque chose, mais que je pense qu'il devrait y avoir un débat maintenant parmi la population, par exemple à propos de l'informatique, sur est-ce qu'on a intérêt, parce qu'il faut bien voir aussi qu'il n'y a pas seulement la science, mais il y a l'économie. Et j'entends encore hier matin que Micro se lance dans la production de micro-informatique et de micro-ordinateurs. Ouais. Hein, il y a toute l'économie qui a intérêt à vendre un maximum de micro-informatique maintenant.
C'est là où il faut vraiment distinguer science et technique, parce que l'informatique, c'est surtout de la technique. Ça a très peu à voir avec la science.
Une application de la science.
Très peu.
S'il n'y avait pas l'électronique, il n'y aurait pas de micro.
Oui, d'accord. Mais je veux dire, en tout cas, ça n'a pas apporté un bouleversement scientifique. Ce n'est pas une révolution scientifique,
d'accord,
l'informatique.
Tout à fait, d'accord. C'est une application.
Par exemple, un mathématicien comme René Thom, il le dit alors avec plus d'autorité que moi, il le dit très clairement, les gens qui nous font croire que la révolution informatique, c'est une révolution théorique, c'est des charlatans. C'est de la quincaillerie, l'informatique.
C'est de la quincaillerie, mais qui va changer
nos vies.
Le mode de travail des gens.
Le mode de travail,
leur type de relation.
Et en partie le mode de pensée, de même que l'imprimerie a modifié notre manière de penser.
Non, mais moi je crois que la révolution informatique, c'est vrai que c'est pas une révolution scientifique, c'est une révolution économique,
technique.
Ce qui a permis la révolution informatique, c'est quand même
c'est
une
la logique, c'est
l'utilisation en gros de l'algèbre de Boole.
Oui.
Ça, c'est une révolution.
Oui,
une
voilà.
Révolution scientifique. Oui. Mais la révolution informatique, effectivement, c'est politique. C'est économique.
Et en somme, la révolution, je dirais, qu'on voit pratiquement. Elle vient 25, 30, 40 ans après la révolution.
Si tu veux, l'informatique
n'est pas contenue
dans l'algèbre de Boole. Je veux dire que c'est pas nécessaire.
Ça va arriver au prochain, ça passera dans 30 ans.
Ça a permis, mais...
Oui, tout à fait.
fait ça. Mais il y a le décalage qui est important. Et en somme, c'était aussi une des questions qu'on pose dans notre projet utopique.
Ouais.
C'est si on définit une autre recherche maintenant, on définit une autre vie dans 30 ans, éventuellement.
Ouais.
Mais c'est clair que ce n'est pas quelque chose qui va avoir une importance pratique et concrète maintenant.
Mm-hmm. Mais justement. Pourquoi les scientifiques qui prennent la même position que vous, qui se posent des questions ? En fait, c'est possible d'avoir un ordre de grandeur, en fait,
Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux.
Enfin, ça
ils sont de plus en plus nombreux.
Très, très minime.
Mais quand on part de zéro, la croissance peut être assez rapide tout en étant totalement négligeable par rapport à la masse. Hein? Pourquoi il y a eu des croissances fabuleuses dans des pays du tiers-monde ? Évidemment, ils partaient d'un PNB proche du zéro. Alors, ils ont eu des croissances fantastiques. Bon, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a guère, ils ont guère rattrapé les pays développés qui continuaient avec une croissance moindre, mais partant de tellement plus haut. Cette croissance reste toujours très supérieure à celle des pays du tiers-monde. Alors je crois que c'est un peu, il y a un peu un effet analogue, à savoir qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui sont critiques, mais dans la masse, ça reste totalement négligeable. En termes relatifs, en termes absolus, c'est vrai. Il y a beaucoup de scientifiques, et parmi les grands surtout, je sais pas moi, des gens comme Capra en physique quantique, et draine autour de lui pas mal de monde. Un Kostap Borgard a quasiment abandonné de faire de la physique, il fait de la parapsychologie. Alexandre Grothendieck, un des 10 plus grands mathématiciens du monde, il vit retiré à Montpellier. Bon, pour gagner sa vie, il donne encore quelques cours de maths, mais il fait plus partie de la communauté des mathématiciens, etc. Il y a pas mal de monde. Robert Jung en connaît pas mal, mais il ne faut pas oublier que la communauté scientifique américaine, c'est 2 millions de scientifiques. La communauté scientifique soviétique, c'est 2 millions d'individus. 4 millions d'individus, vous avez beau en avoir 1000, 2000 qui sont critiques, qu'est-ce que ça fait, hein? Et n'oublions pas les conditions de la science en Union soviétique. Hein? Il y a 2 millions de scientifiques en Union soviétique. On ne peut pas dire que la science soviétique compte pour rien. Elle produit une bonne partie de la science. On la méconnaît ou on la néglige. Les soviétiques produisent, je ne sais pas, disons un ordre de grandeur complètement farfelu, mais le 25% de la science, le 30% de la science. C'est énorme, c'est vraiment énorme. On ignore chez nous systématiquement ce qui se fait en Union soviétique et les conditions de travail du scientifique en Union soviétique. Et si on les connaissait mieux, on verrait alors très clairement à quel point l'avancée de la science est totalement déformée. Hein. Je veux dire, même si, prenez en économie, on sait très bien que s'il y a 25% de la production qui est pour l'armée, dans un secteur donné, ça influence sur tout le domaine. Bon, eh bien, l'Union soviétique, c'est ça. Vous avez, en Union soviétique, disons, ils produisent 25% de la science mondiale. Si cette science est déformée par des impératifs, d'ailleurs comme aux États-Unis, de défense nationale ou autre, mais ça influence sur l'ensemble de la science. Or, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a très très peu de travaux qui ont été faits sur, par exemple, dans le domaine de la critique des sciences, qui inclut ce qui se fait en Union soviétique. Je sais bien, c'est difficile, il y a peu de choses. Mais tout de même, on a beaucoup de témoignages. On a beaucoup de témoignages de scientifiques, d'ingénieurs, depuis 1945, sur la vie des scientifiques en Union soviétique. Il suffit d'ailleurs de lire Solzhenitsyn. Il y a des pages entières de Solzhenitsyn qui concernent... certains de ces personnages sont des scientifiques. Et pour voir ce qu'est la science dans le monde actuel, il ne faut pas oublier les pays de l'Est. Il ne faut pas oublier les pays de l'Est. Et ça, on est d'accord, hein, les oublie. Non, tout. Un des points sur lesquels les Russes sont même presque en avance sur nous, en tout cas vraiment sur pied d'égalité, c'est le domaine justement de la biosphère. Mais ils sont en train de biaiser cette étude de la biosphère, parce que pour eux, l'étude de la biosphère fait partie des sciences de l'espace. C'est-à-dire, c'est le contrôle de la planète. Hein? D'ailleurs, aux États-Unis, de plus en plus aussi. Pourquoi il y a de l'argent du côté de l'étude de la biosphère ? Parce que de plus en plus, c'est lié à l'exploration, par exemple, est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes, ce qu'on appelle l'exobiologie. Hein? Bon, maintenant, il y a un peu moins d'argent. Carl Sagan a dit que c'était dommage qu'on ne donnait pas assez d'argent dans ce domaine. Mais disons, dans la mesure où on va intégrer l'étude de la biosphère dans les sciences de l'espace, et l'espace, c'est colonisée presque complètement par les militaires, c'est un point très très dangereux.
Oui, mais alors on considère quand même la science où effectivement on prend en considération l'être humain d'une façon globale. C'est très atomisé.
Ah oui?
Mais comme vous disiez, parce que finalement quand vous parlez la science, vous parlez toujours...
Oui, oui, c'est, on parle des sciences qui dominent, d'accord, oui, 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 oui. Si on ne qualifie pas, on parle des sciences dominantes, il suffit de voir les budgets de la science. Et c'est pour ça que le CERN, c'est quand même un point important. En Angleterre, en ce moment, il y a une réduction générale du budget des sciences. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher en science? C'est la physique des particules. Et donc, le CERN remet et risque de prendre une décision dans les semaines ou les mois qui viennent, savoir est-ce qu'ils vont réduire leur budget pour le CERN. Hein, parce que c'est des gros budgets. En Suisse, c'est pareil. Regardez ce que donne, ce que le Fonds national donne aux sciences, et vous verrez que les sciences humaines, c'est pas grand-chose, etc. La médecine, c'est un gros paquet. La physique nucléaire, c'est le gros paquet. Prenez des pays du tiers-monde, prenez des pays comme le Brésil ou l'Inde, qui se lancent dans la physique nucléaire et même la physique des particules. Le Brésil est en train de construire des accélérateurs particules. L'Inde en a déjà. La physique nucléaire, grosso modo, en Inde, bouffe le 40% du budget de la science. Alors, il ne faut pas s'étonner ensuite si l'agronomie a 6 à 8%. Hein? Mais si, c'est de la science. Il ne faut pas être trop idéaliste. C'est de la science.
Les sciences humaines, comme ça,
non, mais c'est de la science, je veux dire.
C'est les sciences humaines, comme ça. Mais la science, ça rappelle autre chose.
Mais moi, je dirais que quand on dit... Oui.
Mais déjà...
Non, mais quand on dit la science, on dit la science telle que le pouvoir l'entend, telle que les budgets la définissent. Hein? Oui, on est d'accord.
Donc, il y a ces... Disons, si on veut parler de discipline, il y a ces disciplines.
Oui, oui.
Dans les sciences humaines, oui, tout ça, finalement, on les appelle sciences humaines, mais à niveau dominant, c'est pas la science.
Non, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est l'histoire. Oh. Il y a une tradition en
tout
science. Traditionnellement, la science, elle est née des mathématiques et de l'astronomie. L'astronomie a été connectée dès l'époque de Galilée avec la mécanique. Hein, et la mécanique céleste, durant tout le 18e, 19e, a été la science modèle. Et cette science, on l'a appelée la physique. On a dit que c'était ça la physique, alors que la mécanique, c'est pas la physique, c'est une petite partie de la physique. Mais à telle enseigne qu'en vers 1900, un grand épistémologue anglais, Carl Pearson, a écrit un bouquin au titre très révélateur, La physique, grammaire de la science. Ce livre a été un best-seller à l'époque, et même traduit en français, mais on l'a complètement oublié. Autrement dit, on voulait nous faire croire que pour faire de la science, il fallait d'abord savoir la grammaire, c'est-à-dire la physique. Et la physique a été, et une physique très mécaniste, c'est-à-dire une physique modelée par la mécanique céleste, qui effectivement avait donné des résultats spectaculaires. Je veux dire, dans les années 1840, on a découvert des planètes simplement sur simple calcul. C'est quand même, c'était fabuleux. On disait aux astronomes, bon, ben, y a une planète par là, vous braquez votre télescope, et puis on l'avait jamais observée, et oui, on la découvre. Et donc, la mécanique céleste a été le paradigme et le paradis de la science. On a dit, c'est comme ça qu'on doit faire de la science. Or, il se trouve qu'il y a une science humaine qui a pris finalement ce virage et qui s'est modelée sur la science de la mécanique céleste, c'est la science économique. Hein, à un point absolument phénoménal. Dans les années 1870, et même encore aujourd'hui, les modèles... économiques sont des modèles qui ressemblent tout à fait à des modèles de mécanique céleste, c'est-à-dire on calcule des trajectoires, etc., on peut prédire des événements, tout ça c'est parfaitement réversible, tout ça n'a rien à voir avec la vie des gens, mais hein, il ne faut pas oublier que quand je dis la science avec un grand S, c'est la tradition scientifique occidentale, hein, telle qu'elle est définie par les grands pères fondateurs, Copernic, Kepler, Galilée, Newton, Leibniz, Laplace, tous ces grands noms, Poincaré. Hein, je veux dire, c'est une culture la science, c'est une culture. C'est-à-dire une culture, ça suppose des références, ce que Kuhn appelle un paradigme, c'est ça. On fonctionne avec une certaine mentalité, avec certaines images, etc. Et les scientifiques ont une culture. Cette culture est totalement différente de ce qu'on appelle la culture émaniste, à telle enseigne qu'on a parlé du divorce des deux cultures. Moi, je crois d'ailleurs qu'avec l'expérience que j'ai acquise dans une école polytechnique, que c'est même assez misleading de parler de deux cultures. Il y en a vraiment trois. Parce que dans une école polytechnique, la culture des ingénieurs, ce n'est pas une culture scientifique. Ils ont encore une autre mentalité, les ingénieurs. Hein. Donc il faudrait dire, il y a trois types de disciplines, de sciences. Il y a les sciences de l'ingénieur, les sciences de la nature, les sciences de l'homme. Alors comment essayer de réconcilier ça? Finalement, c'est du côté des sciences de l'ingénieur où il faudrait faire le plus de choses. Parce que les sciences de l'ingénieur, forcément, l'ingénieur utilise des sciences de la nature, des sciences physiques, chimiques, etc., mais aussi des sciences humaines, inévitablement, puisqu'il fait des projets qui interviennent dans la société. Il est bien obligé de tenir compte de l'urbanisme, de la géographie, de la sociologie, de la psychologie, etc. Depuis peu, on introduit dans les écoles polytechniques des cours de sciences humaines qui sont assez merdiques. On essaye surtout d'employer des gens qui ne seront pas critiques très très vite, ou ceux qui sont critiques, on les fout à la porte. Bon, mais n'empêche que c'est au niveau des sciences de l'ingénieur qui sont immédiatement applicables. Je veux dire, l'ingénieur, il fait des projets, hein, et on va construire à partir de ça. Mais simplement, on a une idée encore plus fausse des sciences de l'ingénieur que des sciences de la nature. Hein. On dit c'est l'application des sciences. Non, non. Un projet technique n'est jamais la pure application des sciences. Il y a d'abord le projet en lui-même, il n'a rien de scientifique. Hein. Le fait de faire une autoroute, ça n'a rien de scientifique. Je veux dire, de décider de faire une autoroute entre Genève et Lausanne, d'y mettre des ponts, des tunnels, etc. Ce projet-là est un projet social, politique, économique. Ça n'a rien de scientifique. La science, pour l'ingénieur, est un moyen, est un outil. Il y a une mythologie chez l'ingénieur qui est encore plus forte, parce que les ingénieurs vous disent tous, moi je fais de la science. Alors là, et l'idéologie est encore plus forte, parce qu'on ne discute pas dans les écoles d'ingénieurs. Hein, je veux dire, la discipline, le modèle autoritaire est encore plus fort dans une école d'ingénieurs qu'à l'université. Hein. Le lien avec l'armée, avec l'industrie est encore plus fort. Et là, ça va être encore plus difficile, la remise en question de nos deux écoles polytechniques. Hein. Peut-être le prochain bouquin à faire, c'est la quadrature des PF.
J'ai discuté avec des jeunes du politique là-dessus. C'était vraiment la détresse chez eux.
Non, on aura beaucoup plus de mal dans les écoles d'ingénieurs.
Pas du tout. Ah, ça avait du mal à rentrer. C'est-à-dire, justement.
C'est-à-dire qu'ils sont plus proches du pouvoir. Le pouvoir, il est là. Il est là. Il est là. La plupart des profs à l'école polytechnique sont colonels à l'armée, je veux dire les patrons de département. Ils sont dans les mêmes commissions qui établissent les budgets d'armement, et y compris dans les usines qui construisent ces armements, je veux dire. On a même de la difficulté en Suisse à parler de complexe militaro-industriel. Parce que ce terme avait été inventé pour désigner la collusion entre d'une part l'industrie et d'autre part l'armée. En Suisse, c'est les mêmes. Donc on ne peut même pas dire qu'il y a collusion. C'est les mêmes. Et ils sont dans les banques, etc. En France, ça veut dire quelque chose, le complexe militaro-industriel. Parce que le système industriel, les banques, les capitaines d'industrie et la banque, c'est vraiment totalement différent de l'armée en France. C'est complètement différent. L'armée est un corps dans l'État, très spécifique. En Suisse, c'est pas le cas. En Suisse, c'est complètement diffus dans toute la société. Et là, je crois que la prochaine étape, ce sera le militarisme de la Suisse. Car il est très très fort. On en aura peut-être l'occasion avec l'initiative sur une Suisse sans armée. Peut-être. Parce que ça pourra permettre un débat. Parce que c'est une utopie, ça. Ça, c'est l'utopie parfaite. Non, on peut discuter sur une utopie, là, parce que c'est évident que ça ne va pas passer, c'est évident que ce n'est pas praticable, que ce n'est pas pour demain. Donc ça suscite la discussion. Mais vous allez voir les réactions. Hein. Ouh, ça va être violent. Ça va être violent. Hein.
Mais moi, j'ai une réaction comme ça, très à fleur de peau, d'un gars qui est dans l'industrie et qui m'a dit, bon, moi, théoriquement, je suis tout à fait pour cette initiative, mais de toute façon, j'ai besoin de boulot et tout, dans ma mission et tout, c'est ce type de réaction.
Oui. Et c'est donc plus difficile ensuite de contester l'armée, parce que l'armée est partout, qu'en France, où l'armée est bien définie, on est dans l'armée ou on n'est pas dans l'armée. Et si on n'est pas dans l'armée, on peut critiquer l'armée. Et ça ne gêne pas pour la carrière industrielle ou autre, ou universitaire. Alors qu'en Suisse, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Le système de milice, hein, puis toute la mythologie, que le citoyen est soldat, soldat-citoyen et tout, qui nous vient de la Révolution française. Hein. Mais là aussi, peut-être, là, on remonte alors dans toute la mythologie de la République, hein, de la démocratie. La Révolution française, c'est une révolution armée. Hein. Et une des grandes conquêtes de la Révolution française, c'est le citoyen est soldat. Il a le droit d'être soldat. Mais là où il y a eu un dérapage, c'est que non seulement il a le droit, mais il a le devoir, obligatoire. Hein? Parce qu'effectivement, moi je veux bien que ce soit un droit, que ce soit plus réservé aux nobles. Avant, c'était les nobles. Hein? Et puis, il y avait des mercenaires. Et puis, tout d'un coup, avec la Révolution française, tout le monde, il a le droit d'aller à l'armée, sur pied d'égalité. Hein? Il y a de simples citoyens qui sont devenus les généraux de Bonaparte. C'est magnifique d'un point de vue purement démocratique, hein. Mais ensuite, ça a introduit quelque chose de totalement nouveau dans toute l'histoire de l'humanité, la conscription obligatoire. C'est-à-dire, tout citoyen est né soldat. Vous êtes né soldat. C'est congénital. Hein. Ça s'est dit pendant la Révolution française, ça. Et on n'a pas assez réfléchi sur l'envers du décor de la Révolution française. On vit tous encore avec cette mythologie de la Révolution française qui a coupé la tête au roi, cet affreux régime, l'ancien régime, c'était noir et affreux, le Moyen-Âge. Alors que, en fait, les études historiques prouvent aujourd'hui que la France de l'ancien régime, bah, pour prendre que la France qui était un pays agricole et riche et tout, très décentralisé, c'était pas si mauvais que ça, finalement, et que la Révolution française, il faudrait peut-être faire le bilan, hein. Bon, sans tomber dans l'idéologie de l'extrême droite qui dit exactement le contraire maintenant et qui veut nous faire croire que c'est l'ancien régime, la monarchie, que tout est beau. Non, je veux pas aller dans cette critique-là, hein, je vais pas faire machine arrière. Mais je veux dire par là qu'on doit reprendre toute notre mythologie de la Révolution française, parce que la Suisse est née aussi de ça, je veux dire, le régime républicain, le citoyen soldat, le système de la milice, même s'il y a des racines historiques. Non, il y a des racines historiques qui remontent à plus loin, je veux dire. Mais il faut voir aussi la différence entre l'époque où on défendait une ville, l'époque où la Suisse c'était des petits cantons, des petites villes. Chaque citoyen défendait la ville de Genève, etc. On connaît tous l'histoire de l'escalade, finalement. Ça n'a plus rien à voir de défendre un territoire qu'on ne connaît pas. Je veux dire, qui n'est pas le patrimoine, la famille et tout ça. Hein? On nous fait croire qu'il y a parfaite continuité, hein? Entre les soldats de l'an 1300 du Moyen-Âge et que le soldat de l'ère moderne. Hein? Moi je crois qu'il faut vraiment montrer que la guerre ça n'a plus le même sens, la notion de citoyen d'une nation c'est plus la même chose que citoyen de la République de Genève, c'est plus du tout la même chose, les discontinuités historiques qui sont des ruptures culturelles.
Bien, je crois qu'il est l'heure. Je vous remercie beaucoup. Oui. Je crois que c'était très intéressant.
Ben, c'était agréable.
Ouais, d'être ici. Hein? On aurait pu encore continuer fort longtemps.
Vous avez parlé de...
Oui,
oui. L'Institut de la vie, oui, fera un débat, je crois. Hein, tu connais peut-être les dates déjà ou pas?
Non, c'est le 13 juin.
C'est pour le 13 juin?
En principe, oui.
Ouais. 13 juin, il y aura un débat.
Ah oui, on aurait
l'Institut de la vie.
Sur votre bouquin.
Venez nous aider un peu. Ouais, sur notre bouquin.
Oui, alors on espère que là, il y aura des gens qui savent.
Ah oui. Ah oui, alors il faut qu'on vienne.
Un débat contradictoire.
Ce sera où?
Bah, on sait que ça s'est bien vendu. C'est bien ça. Mais les gens n'en parlent pas énormément.
Le match de Houston et Kingston. Il y a eu un moment sur la...